Alors cet après-midi, je vais vous parler d'un point essentiel dans la méditation qu'on va toujours retrouver, mais qui est parfois un peu mal compris. C'est l'aspect de la concentration. On a tous en image des yogis, on se dit qu'ils sont super concentrés. Après, on fait écho avec notre pratique et puis on se rend compte que on a toutes les peines du monde à canaliser notre esprit et que ça part dans tous les sens. On se dit, bon, j'y arriverai jamais. Et puis ça peut susciter énormément de découragement. Et à l'inverse, on peut dire, non, mais la méditation, c'est rien faire. Moi, je m'assois juste et puis je fais rien, puis j'attends. Là, à l'autre bout, on est aussi dans une vision un peu erronée, dans le sens où le fait d'être là, ce n'est pas de l'oisiveté. Hein. De méditer, ce n'est pas être oisif, mais ça demande un effort aussi. Et on le voit à quel point ça demande un effort de rester là, d'être là. Et si ça ne demandait pas d'effort, je pense que tous les soirs, on serait en train de méditer 2 heures avant d'aller nous coucher, plutôt que de nous plonger dans un bon bouquin, regarder une série ou se laisser juste distraire, ce qui est aussi ok, mais ça demande un effort, hein, de ramener la présence ici encore avec l'expérience comme elle est. Des fois on n'a juste pas envie de rencontrer l'expérience comme elle est. Et la concentration, on va la retrouver dans tout l'enseignement du Bouddha, que ce soit dans le chemin octuple, dans l'aspect de la pratique, on a la concentration, la pleine conscience. Et puis l'effort sage, de savoir quel est l'effort juste, quel est l'effort sage juste maintenant pour pratiquer. Il y a différents aspects. Et puis notamment aussi dans les facteurs de l'éveil, où la concentration est un de ces facteurs. On l'appelle par le terme Pali Samadhi, la concentration. Et quand on pratique, généralement, on la pose sur la respiration, c'est souvent l'objet de conscience, hein, sur lequel on pose notre attention. Hein. Cultiver la concentration, c'est avoir cette capacité de poser notre attention sur un objet de conscience et puis rester avec. Alors, généralement, c'est la respiration, mais ça peut être tout un tas d'autres objets. Et des fois, la respiration, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus adéquat, surtout si on est... Si la respiration nous active, si on souffre d'empreintes traumatiques notamment ou des choses comme ça, et le fait de poser notre attention sur la concentration va au contraire activer beaucoup de choses et nous emprisonner. On peut vraiment poser aussi notre attention sur les mains, sur les pieds, sur des sons. Donc on n'est pas obligé d'être à l'intérieur, mais on peut la porter à l'extérieur. Il y a tout un tas d'objets, on peut formuler des paroles, qui est aussi une manière de nourrir la concentration, parce qu'on focalise notre attention sur quelque chose. Ça peut être des paroles de bienveillance, des paroles de compassion, des paroles de refuge, ou des mots hein, qui nous font du bien. Donc il y a tout un tas d'objets. Et au quotidien, on peut nourrir aussi cette concentration, on la connaît un peu mieux, hein. C'est ce fait d'être là quand on fait les choses. Mais on peut être là avec le corps, on peut être là aussi avec les ressentis. Et on peut nourrir cette concentration tous les jours, quand on conduit, quand on descend les escaliers. C'est un mélange de pleine conscience et de focalisation. Et des fois, c'est intéressant de voir combien de fois on perd la respiration au cours de la journée, ou des fois à la fin de la journée, on dit « Ah tiens, en fait, je respire. » Et en fait, ça respire tout le temps, mais on oublie qu'on respire. Et la respiration, elle exprime énormément hein, par rapport à notre état de stress ou de tension intérieure. Donc des fois, c'est un bon baromètre à mettre en présence. Et quand on pratique ça, en fait, on voit à quel point... notre esprit est peu concentré, généralement. Alors, il y a des personnes qui ont cette capacité innée à facilement se concentrer. Et d'autres pas, je crois que la majorité pas trop, j'ose espérer, parce qu'en tout cas, c'est pas mon cas. Mais on peut voir à quel point, en fait, notre esprit il est complètement dispersé. C'est-à-dire qu'on est rarement là dans l'instant avec le corps. Hein, notre mental produit des pensées qui sont qui anticipent ce qui va se passer, qui sont dans le futur, qui revit les choses du passé. Quand on marche dans la rue, on est déjà là où on veut aller. On est rarement là juste maintenant. Et aussi à quel point on est projeté en fait dans nos sens constamment, et on est peu en fait à l'intérieur. Ce qui fait qu'on est coupé du corps. Hein, on est dans tous les aspects visuels, on marche dans la rue, on peut voir, on est complètement capté, accaparé par les stimuli. Au niveau du sens de la vue, c'est ce qu'il y a de plus flagrant. D'ailleurs, le marketing l'a très bien compris, la publicité, les vitrines et tout. Voilà, on est accaparé par plein de choses. Dès qu'on voit quelque chose, il y a une perception, il y a un ressenti, il y a un vécu, il y a des constructions mentales autour, ça va très vite. Et à quel point, en fait, on peut en fait, très vite être décalé entre ce que le corps ressent et la manière dont j'interprète l'expérience qui m'arrive dans l'instant. Donc, dans le vipassana, la concentration, elle n'est pas un but en soi, mais elle est un outil. Elle va être un outil pour permettre à la pleine conscience d'avoir son potentiel guérissant, libérateur, de mettre en lumière. La voie qui suit purement la concentration, on la retrouve beaucoup hein, dans la méditation transcendantale, les approches yogiques, où vraiment on se focalise uniquement sur un point, on le tient, que ce soit sur des flammes, sur des mantras, sur des points, va nous amener en fait dans ce qu'on appelle les jhanas, dans des états d'absorption méditatifs ou des états de conscience élargis, qui peuvent être extrêmement puissants, bienfaisants, et nous révéler beaucoup de choses. Mais cependant, en fait, c'est des expériences qui sont de courte durée. C'est-à-dire que du moment, en fait, c'est des expériences qui vont avoir un début, une durée, une fin, et se terminer. Et après quoi ? C'est-à-dire après, notre tendance générale, c'est de faire ça. C'est soit de s'enorgueillir de nos expériences spirituelles, soit de tout faire pour les retrouver. Mais la concentration demande aussi des conditions de vie, de temps, de disponibilité, et on peut vite devenir extrêmement frustré et énervé de ne pas avoir ces conditions à disposition pour pratiquer autant la concentration qu'on le souhaiterait. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est frustré, on est insatisfait, nos belles expériences, on n'arrive pas à les revivre, et on est en plein dans dukkha. Hein, dukkha, c'est ce dont le Bouddha a énormément parlé, c'est ce qu'on appelle l'insatisfaction, la souffrance. Et tout l'enseignement du Bouddha, c'est juste de dire, mais voyez, dans la vie, il n'y a pas que, en tout cas, mais il y a de l'insatisfaction, il y a du manque, il y a de la peine, du chagrin, de la douleur. Et moi, je suis venu vous amener comment vous libérer de ça. Et c'est extrêmement pragmatique. Donc la concentration va être en vipassana, qui veut dire voir les choses telles qu'elles sont, la vision profonde, un outil pour la pleine conscience et pour se libérer. Quand on est concentré, ça a aussi un effet physiologique clair. Quand on pose l'attention, l'esprit s'unifie, se stabilise. Il y a une forme de joie, de contentement qui est là quand l'esprit est bien concentré. La respiration devient plus régulière, elle s'affine, la cohérence cardiaque augmente, Donc, il y a vraiment un effet physiologique sur notre système nerveux, une forme de bien-être qui est là. Et c'est pour ça que c'est bon de nourrir la concentration, parce que ça nous amène aussi à une forme de contentement, une forme de bien-être. Mais voilà, après, à partir de là, on peut s'ouvrir à autre chose. C'est le Bouddha qui dit « L'esprit est vif, difficile à contenir. Il s'évade où il le désire. Il est bon qu'il soit apprivoisé. Un esprit bien apprivoisé est source de bonheur. » Donc, ici dans Vipassana, on va utiliser la concentration pour accueillir l'expérience dans l'instant. Elle va s'appuyer dessus. S'il n'y a pas de concentration, vous pouvez le voir si vous méditez à la fin d'une journée ou après une nuit agitée, ça part dans tous les sens. L'esprit part dans tous les sens, le corps il n'est pas posé, on peut sentir le stress, ça tape. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique de ne pas s'asseoir tout de même, mais du coup, la capacité de cet esprit qui accueille, il n'a pas autant de puissance pour pouvoir voir l'émergence des expériences, les voir comme elles sont, puis juste être avec. Ce n'est pas possible parce qu'on est identifié, on est identifié dans notre truc. Et c'est ce dont je vais parler juste après, c'est ce qu'on appelle les obstacles. La pleine conscience, c'est cette partie de l'esprit, chitta, qui s'ouvre dans un espace de réceptivité. On a une partie de notre esprit qui construit, le mano, le mental, il construit, il projette, il crée, il anticipe, il revit le passé. Il est dans un mode de construction constant et on peut voir à quel point on est tout le temps dans ce mode, c'est-à-dire on va, dès qu'on reçoit une expérience, on va l'analyser, l'évaluer, bien, mal, juste, faux, par rapport à mon vécu, etc. Et c'est tout à fait ok, c'est absolument merveilleux, en fait, comme capacité qu'on a là. Mais il y a cet autre mode qui est toujours là, mais en background. C'est cette capacité de la conscience d'être en mode réceptif, de recevoir l'expérience juste comme elle est dans l'instant. Recevoir le corps, recevoir les ressentis, recevoir toute la dimension des pensées, des émotions, etc., et juste de s'ouvrir aux choses telles qu'elles sont. Le problème, entre guillemets, de cet esprit qui projette tout le temps, c'est qu'en fait, on croit qu'on est lui, on croit qu'on est ce qu'on pense, et que ce qu'on pense est complètement conditionné. On est d'une part identifié dans nos systèmes de croyances, qui sont complètement construits et conditionnés. Et ça serait ok si nos systèmes de croyances nous amenaient de la paix et du bonheur durable, mais ce n'est pas le cas. On peut le voir sur la planète, on peut le voir à notre échelle. Donc cet esprit qui est construit est comme programmé dans ce qu'on appelle les sankharas, dans des programmes mentaux, dans des habitudes, dans des croyances qu'on a... qu'on nous a apprises, inculquées, familialement, individuellement, collectivement, culturellement. Et ces systèmes-là, ils sont... Il nous faut croire que le bonheur et la paix ne sont pas là vraiment où ils sont. Il y a derrière ces systèmes de croyances quelque chose qui essaye de se protéger, notre petit moi, notre ego. Et pour se protéger, il y a quelque chose derrière ces systèmes où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Le cœur ne peut pas s'ouvrir. On a besoin de plus de plaisir, plus de bien-être, plus de succès, plus de reconnaissance. Toujours plus, toujours plus. Et c'est jamais suffisant. Et on poursuit cette quête effrénée. Ça nous amène un peu de satisfaction, mais elle n'est jamais durable. Elle est parce que tout change, tout est impermanent, donc ça nous file toujours entre les doigts. On court, on court, on court, on court, et puis en fait, finalement, c'est plus après qu'on court. Et toute la vie, toute notre vie. Donc on est identifié dans, dans nos pensées, dans les ressentis qu'il y a, dans le corps, on est identifié à ce corps. On pense qu'on est ce corps, on pense qu'on est ce qu'on ressent, on pense qu'on est ce qu'on pense. Et on se fait avoir dans ce que le Bouddha appelle le samsara. Hein, dans, le, dans cette roue perpétuelle des existences où on continue à courir après quelque chose. Et on ne le trouve pas. Comme un lac, c'est Bhikkhu Bodhi qui dit, comme un lac imperturbable sous la brise, l'esprit concentré est un miroir fidèle qui reflète tout ce qui est placé devant lui, exactement tel que c'est. Donc, lorsque la pleine conscience s'appuie sur un esprit concentré, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va pouvoir reconnaître l'expérience dans l'instant. Ok, là, juste maintenant, il y a ce corps, il y a un ressenti désagréable, ou il y a telle émotion, Là, on peut parler de météo intérieur, ou on peut parler de... Si ça vient de l'extérieur, des sons qui émergent, on va pouvoir reconnaître ce qui se passe. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a du doute, de l'aversion. Il y a un esprit agité, pas agité. Il y a de l'ennui, du désespoir, il y a de la joie, de la confiance. Elle reconnaît l'expérience. Et c'est comme si, vous voyez, on pouvait être assis sur un banc, bien stable, puis voir passer, déambuler le monde devant nous, émerger quelque chose, on le voit passer, puis on le voit passer. Donc cet espace de réceptivité, c'est comme si on était un peu assis sur un banc, puis qu'on voyait apparaître les choses et qu'on les laissait passer. Quand il n'y a pas cette stabilité qu'offre la concentration, on voit passer quelque chose, hop, on s'y agrippe, ou alors on va aller lui parler. On n'arrive pas juste à voir ce qui se passe, ça va déjà trop vite. Là, on ne bouge plus, donc on peut voir passer. Et après, du coup, on peut permettre à l'expérience d'être là, lui témoigner du respect, parce qu'on comprend que tout ce qui m'arrive à chaque instant est là pour nous faire grandir. Puis on peut demeurer, on apprend à demeurer avec l'expérience, et petit à petit à s'y ouvrir. Alors c'est tout un art, ça paraît, des belles paroles comme ça, mais c'est un travail de vie, hein, de pouvoir reconnaître, permettre aux choses d'être en nous, et pas les repousser, ou les fuir, ou... Si c'est des aspects plus profonds et plus difficiles même de se figer ou de se dissocier. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, en rencontrant de la nature humaine à l'intérieur de nous, mais toutes ces facettes, pas celles qu'on aime, celles qu'on aime, on les veut bien, celles qu'on n'aime pas, on ne veut pas trop. Mais quand on est dans la pleine conscience, on s'ouvre à tout ce qui est là en nous, dans l'instant. Et bien sûr, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qu'on refoule. Et ce qui est beau, c'est que du coup, on nourrit, on cultive la compassion. On apprend à être sensible à ce qui se passe en nous, à comprendre la nature humaine, à voir que en moi, c'est comme en chacun de vous. Et du coup, ça ouvre le cœur. Et la compassion, elle permet de rester avec une expérience qui est désagréable. Le grand... Et ça prend du temps. Et le grand espoir, c'est qu'en fait, on vive dans une forme de plénitude constante et... Lorsqu'on médite et qu'on expérimente une expérience agréable, on se dit « Ah ben tiens, c'est bon, là j'y suis, c'est vraiment, là ça marche bien, là c'est cool, ça progresse. » Puis pouf, ça change, c'est nouveau, douloureux dans le corps, c'est tendu, c'est confus, c'est le bordel et tout, puis on dit, ah non, là, c'est nouveau, complètement à côté de la plaque. Mais en fait, non. C'est des fois, et c'est là où c'est des fois le plus difficile, c'est de pouvoir vraiment rester avec ses expériences et renforcer vraiment la présence qui reste avec ça. Et nourrir à ce moment-là la compassion. Et c'est là que vraiment un travail fort se fait, même si dans l'instant, on éprouve de la douleur. Et que ce n'est pas facile. Donc il y a beaucoup d'humilité qui naît hein, quand on pratique la méditation. Ou le vipassana en particulier. Parce qu'on est face à nos limitations, à nos parts d'inaccomplis, à nos parts d'ombre. On peut voir les jugements, la colère, la haine, la négativité. On se dit, ok. Donc on se prend peut-être un peu moins au sérieux. Et en même temps, on gagne en estime de soi, parce que ça nourrit beaucoup le courage. On met bien sûr la présence sur les parts d'ombre, mais on la met aussi sur toutes les parts lumineuses qui sont en nous, les qualités. Donc ça remet l'ego à sa place, ni trop peu, ce qu'on appelle la soif d'inexistence. Je suis nul, je vaux rien, j'ai toujours été nul, je suis pas assez. C'est puissant. Hein. Ou l'inverse, oh, je suis trop fort, c'est bon, ça y est, les autres, il n'y a qu'à les tenir en dessous. Mais généralement, les deux vont de pair. C'est-à-dire que quand on est très dans la présence, et qu'en fait, il y a la peur d'inexistence, qu'on est beaucoup dans l'inexistence, il y a aussi une soif d'exister. Et là, petit à petit, on voit ça, puis on apprend à le remettre à sa place. Et bien sûr, on apprend à entrer en amitié avec nous, avec soi-même, et du coup, avec les autres. Donc, quand on pratique la méditation, bien sûr, c'est un côté un peu... On est en silence, on est chacun pour soi. Mais en fait, on le fait pour chacun. Et bien sûr, quand on poursuit, on cultive, on approfondit la sagesse, dans le sens où on voit petit à petit les tendances qui nous maintiennent, et les habitudes qui nous maintiennent dans le manque, dans l'insatisfaction, dans le stress, etc. Et on apprend à voir aussi la nature des choses comme elles sont. C'est-à-dire que plutôt que ce soit ma colère, ma tristesse, mon ressenti, mon corps, on commence à voir les choses sous un angle plus distant, comme des phénomènes impermanents. C'est-à-dire tout est impermanent dans cet univers, de nos ressentis à notre corps qui retournera à la terre, aux pensées qui passent. Et en prenant cette distance, on apprend à voir que même notre moi, Nicolas, c'est une construction et qu'il n'y a pas de il n'y a rien de solide derrière Nicolas, même derrière ce corps. Je veux dire, il change constamment. Et du Nicolas petit au Nicolas d'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à voir. Il y a des mémoires qui sont des constructions, une cristallisation de différentes choses. Et petit à petit, on apprend à voir au-delà de juste notre moi. Et quand il y a moins de moi, oh, c'est quand même vachement plus apaisant. Ça ne veut pas dire qu'on néglige, hein, qu'on se néglige, ou qu'il y a de l'aversion contre l'autre, mais c'est quelque chose qui se délite petit à petit. Donc, on se base sur la concentration, on déploie la pleine conscience, et on se pose dans une attitude sage face à l'expérience juste maintenant, une attitude où on accueille l'expérience, on dépose les armes, plutôt que d'entrer en conflit, et puis on se laisse vivre ce qui est juste là maintenant. Et il y a une forme de confiance, d'acceptation qui se pose, pas une acceptation qui soit désespérée ou du coup, bon, alors, j'abandonne, mais un abandon destructeur, et c'est plus plutôt un abandon qui nous fait qui nous fait nous ouvrir à la vie et puis à la confiance des choses comme elles sont. Je suis juste comme ça, le monde il est comme ça, Bien sûr, je vais m'y engager, m'y défendre les valeurs qui sont les miennes. Mais quand on peut défendre ses valeurs sans peur derrière, c'est complètement différent que de défendre des valeurs avec la confiance. Hein, qu'on se batte pour l'environnement, pour les droits humains. Si derrière il y a de la haine et de la peur, bien sûr que ça a du bon, mais en profondeur, on continue à nourrir une forme d'aveuglement. Mais on fait ce qu'on peut, hein, et là où on est. Et en faisant ça, on offre du coup à la conscience la possibilité juste de se dévoiler, ce qu'on appelle l'esprit pur. Hein, il y a l'esprit qui construit tout, qui construit un monde, qui construit l'univers. Et à force juste de recevoir, les choses se dévoilent. Au fond de nous, on est tous éveillés, tous libérés. Et il y a des voiles, des couches qui entourent tout ça. Et petit à petit, l'esprit équanime, ouvert, hein, se révèle à nous-mêmes. Et c'est Jack Kornfield qui dit, dès lors qu'on abandonne la lutte et qu'on ouvre son cœur à ce qui est, on découvre le repos dans l'instant. C'est l'alpha et l'oméga de la pratique spirituelle. Donc, pour cultiver la concentration, on peut le faire très simplement, en revenant à un objet, en abandonnant volontairement les pensées. Quand il y a une pensée qui émerge, juste dire pensée, et on revient. Si on veut vraiment cultiver la concentration, souvent au début des assises, c'est très bénéfique. Voir une fois, ah, pensée, ok, je reviens à la respiration. À la fin de l'expire, où je peux compter les respirations, où je reviens sur les mains, ou juste sur les sons. Je fais vraiment ce travail avec persévérance. Et on peut le faire avec détermination, mais sans rigidifier, sans trop forcer. Et bien sûr, on va rencontrer des énergies très puissantes, qu'on appelle les obstacles, qui sont l'aversion, l'avidité, le doute, la somnolence. Si c'était aussi simple, on le saurait, mais on a ces énergies qui se révèlent à nous. Ce n'est pas des choses qui sont créées par la méditation, c'est des choses qu'on porte au fait au quotidien, mais qu'on ne voit pas. Et quand on se pose, c'est là qu'on voit toute la négativité, ou toute l'aversion, ou tout l'envie d'autre chose, ou tout le doute qu'il y a tout le temps, ou le stress. Et ces obstacles nous empêchent vraiment de poser notre attention. Et il y a tout un tas d'outils, selon les obstacles qu'on rencontre. On peut utiliser ce qu'on appelle des moyens habiles. Mais la consigne de base est toujours de revenir déjà à l'objet, au corps dans son ensemble, ou à la respiration. On revient, on revient, on revient. Et tout en nommant l'obstacle qui est juste là, ah ben là maintenant il y a du doute. C'est ça le doute, ok? Je reviens à l'objet. Je reviens à l'objet. Et ensuite, des fois, s'il y a de l'aversion, on peut pratiquer du metta, ou alors on peut aller sentir dans le corps comment c'est l'aversion. Il y a tout un tas de. C'est tout un art que je ne vais pas développer ici et maintenant. Donc, ces obstacles, ce n'est pas des problèmes. On en fait des énormes problèmes. On est très identifiés dedans. C'est nos histoires quotidiennes, hein, en gros, qui sont toujours là en nous. L'histoire du boulot, l'histoire de la famille, l'histoire sur soi-même. Hein, c'est cette bande FM, la radio, c'est la fréquence radio sur laquelle on est branché. Puis ça change. Puis auquel on croit beaucoup. Et c'est ça qui nous empêche de nous concentrer. Et petit à petit, à force de la rencontrer, de le voir, c'est comme des petits démons. Hein, ils ont pu être puissants. Mais plus on. Je ne sais plus dans quelle parole ça, ils disent. Plus on va se moquer d'eux, plus. Non, plus on va les délaisser, plus ils vont se moquer de nous. Donc autant les accueillir avec respect et puis apprendre à être avec. Et un de ces obstacles, bien sûr, c'est l'aversion, avec comme émotion, enfin la colère qui est là. Et je vais juste terminer avec une parole de Thich Nhat Hanh, justement, sur la colère. L'attitude bouddhiste est de prendre soin de la colère. Nous ne la refoulons pas, nous ne la fuyons pas. Nous respirons et nous prenons la colère dans nos bras avec la plus grande tendresse. Ainsi, la colère n'est plus seule, elle est accompagnée de notre attention. La colère est comme une fleur fermée le matin. Lorsque le soleil brille sur elle, la fleur s'épanouit parce que la lumière du soleil a pénétré profondément en elle. L'attention est ainsi. Si vous continuez à respirer, des particules d'attention s'infiltreront dans la colère. Quand la lumière du soleil pénètre une fleur, elle ne peut pas résister. Elle est forcée de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur au soleil. Si vous continuez à respirer sur votre colère en l'illuminant de votre compassion et de votre compréhension, elle va bien vite se craqueler et vous serez en mesure de regarder tout au fond et de voir ses racines.